Le livre « Le requin ventriloque, mémoire d'un mousse en Afrique » est paru aux éditions Ilaise. Charles-Alexis Mosa, auteur du livre, bonjour.
Bonjour.
Benoît Gabory, des éditions Ilaise, bonjour.
Bonjour Roland.
Charles, peut-on résumer ce livre par l'histoire maritime d'un mousse ilais partant à la pêche au thon en Afrique ?
Oui, en quelques mots, Erwan est un jeune mousse de l'île-dieu qui part à la pêche au thon au Sénégal à l'âge de 17 ans. Et donc, il embarque sur un chalutier qui s'appelle la Marie-Jeanne. Et il part au Sénégal. Donc, il pêche sur les côtes, le long des côtes du Sénégal. Et puis, il monte aussi un peu jusqu'en Mauritanie et éventuellement au Cap-Vert. Le chalutier s'appelle la Marie-Jeanne. Erwan vient de l'île-Dieu, comme je l'ai dit. Il y a quatre équipiers à bord. Il y a un chef mécanicien, il y a un autre mousse. Et puis, il y a un prêtre ouvrier qui est sur ce bateau. Donc, c'est assez curieux. Erwan découvre ça. Il n'avait jamais imaginé qu'il pouvait y avoir des prêtres qui soient ouvriers. Et l'équipage, ce sont quatre Français, donc je l'ai déjà dit, 12 Sénégalais, et puis un novice, Erwan. Et donc le roman est en deux parties, si vous voulez. Il y a une partie pêche, donc Erwan raconte le quotidien des canneurs, c'est un chalutier canneur, hein, je signale, donc avec des vifs, on pêche à la sardine vivante. Et puis il y a une partie conte où Erwan raconte sa découverte du Sénégal, et des Sénégalais et des contes africains.
Est-ce une histoire fictive ou ancrée dans le réel, Charles ?
Une partie imaginée, romancée, et puis une partie réelle, puisque c'est moi qui l'ai vécu. J'avais 17 ans et j'ai découvert à la fois la pêche et le Sénégal, et puis les laptos, donc, qui sont des marins sénégalais qui se louent à la journée ou à la sortie. Donc ça dépend du temps.
Charles-Alexis, Erwan, c'est vous pour être clair.
C'est à la fois moi.
Ça vous fait sourire.
C'est moi et c'est un autre moi, puisqu'il est issu de ma mémoire et de mon imagination.
Ce livre a été nourri par votre parcours professionnel.
Voilà. J'avais 17 ans, j'étais en première, j'allais rentrer en terminale. J'étais un peu turbulent, on va dire, limite bagarreur. Et donc. Des gens bien intentionnés m'ont dit « va faire un tour un peu en mer, hein, va te calmer, là, va apprendre le métier et tu verras, ça ira mieux quand tu reviendras ».
La mer, c'est vraiment votre vie, car vous avez eu, on peut dire, mille vies.
Alors, pour tout vous dire.
Expliquez-nous.
J'ai été conçu au bord de la mer, je suis né au bord de la mer. Bon, ça, c'était au Maroc. Et toute ma vie, j'ai vécu. Hein, j'étais à Casablanca, j'étais au Maroc. Le dimanche, j'allais à la pêche avec mon père, j'allais me baigner. Et je profitais des grandes vagues de l'Atlantique, donc c'était juste extraordinaire. Et puis, je pêchais tout le temps. Mon père était un grand pêcheur, donc je pêchais avec lui. Et donc, j'ai toujours eu cet amour de la mer. Alors, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, on est arrivé à l'île-Dieu il y a une trentaine d'années à peu près. Et j'ai rencontré des gens formidables, il n'y a pas d'autre terme, dont un marin pêcheur, un vrai marin pêcheur.
Qui vous a raconté des histoires de l'île-Dieu ?
Voilà.
Ça nourrit aussi ce livre ?
Voilà. Et donc,
si vous voulez le nommer, allez-y. Hein.
Non, je peux pas. Je peux pas. Mais si vous voulez, bon, Dieu est son âme, et il n'est plus là, mais il a eu une très grande influence sur moi parce qu'il m'a raconté des histoires de naufrages qu'il a vécu. Hein, et donc, accroché à un espar dans l'eau glacée, se voyant mourir, il m'a raconté tout ça, si vous voulez. Et donc, c'est un petit peu le personnage que l'on retrouve dans le grand-père, puisque dans le livre, Erwan a. Il y a deux binômes, si vous voulez. Il y a Erwan et son grand-père, il y a Erwan et le pourvoyeur de sardines, qui s'appelle Abdou. Et donc, on bascule en permanence entre Erwan le grand-père et Erwan Abdou.
Erwan fait beaucoup appel à son grand-père dans ce livre.
Alors, dans sa mémoire, si vous voulez.
Dans sa mémoire,
et
possible,
dans son
oui.
vécu, puisque quand il a un problème, il se souvient de ce que son grand-père lui disait. En mer, il n'y a pas SOS dépannage, il n'y a que la bite et le couteau. Alors, tu te débrouilles, hein, et avec ça, tu dois tout faire.
C'est vrai que la bite et le couteau, c'est vraiment une expression de l'île-Dieu.
Ah, total. On ne peut plus. Et donc, Erwan est confronté à un certain nombre de situations plus ou moins plus ou moins graves, on va dire.
Pas facile à vivre aussi.
Pas facile à vivre aussi. Et il y en a une, en tout cas. Bon, la première, si vous voulez, c'est qu'il est chargé de calmer les requins et les thons qui sont embarqués, puisque ce sont des canneurs. Donc, ils pêchent avec des sardines vivantes. Et on pêche le thon germont, mais on pêche aussi des peaux bruns, c'est-à-dire des requins. On appelle les Jean-Louis. Pour ceux qui connaissent la mer, Jean-Louis, c'est un requin. Et donc, tout mousse qu'il est, il doit s'occuper, il doit assommer les thons. Et puis, il doit aussi s'occuper des requins qui ne pensent qu'à une chose, c'est mordre les bottes et mordre les mollets. Et donc, il faut qu'il trouve un moyen pour les tuer. Alors ça, je le raconte dans mon bouquin. Vous lirez, en fait.
Exactement.
Pour savoir comment on tue un requin. Ah. c'est pas toujours évident, parce que même avec un gourdin ou avec une hache, vous tuez pas un requin comme ça. Donc, il doit trouver un moyen. Ça, c'est donc la première fois qu'il fait appel à la bite et le couteau. Et puis, la deuxième fois, c'est quand il rencontre un requin ventriloque. Alors, pourquoi un requin ventriloque? Parce qu'en fait, dans l'estomac du requin, il y a un pêcheur sénégalais qui Carwan doit délivrer, puisque ce pêcheur lui dit « Délivre-moi, s'il te plaît, je ne pourrais pas entreprendre le grand voyage que font toutes les âmes, hein, quand elles quittent le corps, et je ne pourrais pas entreprendre le grand voyage si tu ne m'aides pas à sortir de ce requin. »
Ce grand voyage fait également partie intégrante du livre.
Voilà. Et donc je raconte en fait la façon africaine et sénégalaise surtout d'enterrer les morts, d'y avoir tout un cérémonial, si vous voulez, parce que les Sénégalais sont à la fois musulmans et puis un petit peu animistes aussi, on peut le dire. Et donc,
d'ailleurs, il y a un avertissement par rapport à ça dans votre livre, au début du livre.
Ouais,
j'ai expliqué.
Oui, je l'explique en disant, la façon dont s'expriment les Sénégalais n'est pas, je le retranscris tel quel. Ce n'est pas péjoratif. En aucune façon, je cherche à me moquer ou je n'oserais me moquer du parler africain, puisque c'est devenu une nouvelle langue. C'est une love langue, si vous voulez, que l'on retrouve au Sénégal, mais qu'on retrouve aussi en Côte d'Ivoire. Le Sénégal s'appelle le Wolofal. Mais en fait, c'est une nouvelle langue qui a été inventée en Afrique. Et le français, on voit que c'est une langue qui est vivante et qui évolue au fil de son utilisation. Et c'est normal, parce que c'est le but même d'une langue.
L'action se passe en 1970 dans ce livre. Quelle est votre vision de la pêche actuellement sur l'île Dieu ?
C'est un petit peu les messages que je voulais faire passer dans ce livre. Je voulais faire passer trois messages. Le premier message, si vous voulez, c'est que la population sénégalaise est souriante et généreuse. Les pêcheurs sénégalais sont des gens formidables. Ce sont des gens de mer. Ils sont endurants et courageux. Donc c'est le premier message que je voulais faire passer. Le deuxième message, c'est que le pillage de la mer, je le raconte dans le livre, est une chose réelle. J'ai vu la mer couverte lorsque je pensais être des fleurs blanches, et en fait c'était des poissons ventre en l'air. Et il y avait un navire-usine soviétique qui était là, et puis des chalutiers, des feeders qui étaient à côté, et qui se mettaient à couple pour décharger, ou sinon ils chalutaient à deux, hein, ils traînaient un filet au fond de la mer, et ils raclaient tous les fonds.
Ça c'était en 1970.
Voilà. Et mais j'assistais à un vrai pillage. Et donc,
ça existe toujours.
Je vais y venir. Et donc ce pillage, si vous voulez, je l'ai vu de mes yeux vus. Il est réel. Et vous pensez bien que quand un chalutier racle le fond comme ils l'ont fait, ça met 10 ans à la faune et la flore mettent 10 ans à se reconstituer. Et donc, je l'ai un petit peu
détaillé
dans le bouquin. Je ne voulais pas employer le terme de dénoncer, mais je voulais le détailler en disant « Regardez la réalité des choses, c'était juste épouvantable ce qui se passe. » Parce que bien sûr, tout ce qui ne rentrait pas dans les normes était rejeté à la mer. Donc c'était la deuxième message. Il y a aussi des accords de pêche à l'heure actuelle avec l'Union européenne. Moi, j'ai vu au nord de Dakar...
Les quotas de pêche.
Voilà. Hein, et j'ai vu, à l'époque, en 70, il y avait des barques qui étaient tirés sur le sable, qui partaient tous les matins et qui rentraient tous les soirs, et qui étaient chargés à bord de sardines. Ça, c'était les années 70. À l'heure actuelle, ces pirogues n'existent plus. Elles servent à transporter des migrants vers les Canaries, si vous voulez. Et donc, toute cette économie locale qu'il y avait, où les pêcheurs ramenaient des poissons, ils les fumaient et ils les vendaient, ça n'existe plus. Accord de pêche, Union européenne, Sénégal. Donc, je trouve que c'est une véritable catastrophe. Il n'y a pas d'autre terme. Ça profite à très peu de gens.
C'est une dérive.
C'est une dérive totale, si vous voulez. Et donc, on s'aperçoit qu'on est en train de piller la planète. Des gens, j'allais dire, qui sont attirés que par le gain et l'appât, mais qui ne réfléchissent pas une seconde aux conséquences.
Est-ce que vous avez réfléchi à peut-être des solutions ?
Enlever les accords de pêche avec, ou les renégocier avec l'Union européenne. Le Sénégal doit pouvoir être autosuffisant. C'était sa principale ressource avant. Donc si vous enlevez cette ressource à la fois de travail et de nourriture aux Sénégalais, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils s'en vont, ils immigrent. Ça me semble tout à fait logique.
Et tout ceci est évoqué dans ce livre.
Voilà. Et alors, le troisième message que je voulais faire passer, c'était les jeunes. C'était pour nos jeunes îlets. Je voulais faire passer un message. N'hésitez pas à partir à l'aventure et n'hésitez pas à apprendre un métier de la mer, que ce soit pêcheur, que ce soit conveyeur de voilier, que ce soit mécanicien, que ce soit électricien, que ce soit frigoriste. Alors moi, j'ai été officier de marine. Je peux vous dire qu'à bord d'un bateau gris, le frigoriste, le mécanicien, l'électricien, on le saluait bien bas. Parce que sans frigoriste et sans mécanicien, le bateau, il bouge pas.
Le monde maritime, il y a toujours des débouchés, c'est ce que vous nous dites.
C'est plein de débouchés. Et je pense que l'école de pêche, pour ça, est très bien est outillée, il n'y a pas d'autre terme. Hein, tout ce qu'il faut comme professeur et comme métier. Et donc, moi, je ne peux qu'inciter les jeunes à tenter l'aventure et tenter l'aventure de la mer. Et il y a une foule de métiers dans la mer.
Benoît Gavory, ce livre, Le requin ventriloque, mémoire d'un mousse en Afrique, est disponible où ?
Alors, il est disponible dans tous nos points de vente habituels, donc à la fabrique, le magasin de jouets chez les enfants, le chocolatier à la maison d'Oya, évidemment la maison de la presse, également chez Tintin au Bourg. Et alors, un point peut-être important, c'est qu'il a été décidé, conjointement avec l'auteur, de reverser 10% du prix de vente du livre pour soutenir le musée de la pêche. Et donc, dès Pâques, qui doit être dans 15 jours, le musée de la pêche va rouvrir et vous pouvez l'acheter au musée de la pêche. Il y aura comme ça non seulement ces 10% reversés, plus la commission sur les ventes.
Cher Alexis Mossa, auteur du livre, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Benoît Gabory, des éditions Élèze, merci beaucoup également.
Merci Roland.